Bonjour, bonjour, shalom, assalam alaikum, toutes nos excuses. Nous étions prêts au studio quand à 10h59, nous avons eu un souci technique qui nous a coûté 38 minutes d'attente. Mais mes invités consultants sont restés sagement à mes côtés au studio. Je présume qu'il en est pour vous-même, vous aussi, sur Canal FM Alomé, ici sur les antennes des radios partenaires, Radio Lumière à Neho, Radio La Paix à Takwame, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Baganyamtougou, Radio Daoula Bassa, Radio Courtoisie à Dapan et dans le monde entier par le biais des médias numériques qui nous reprennent au jour le jour et à qui nous disons merci, tout comme notre gratitude à Michel Vitogbe Tomenga et Jero Dakucha. Michel Tadia de Ouara les Vainqueurs, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour aux confrères ici présents et à l'invité. Bonjour Canal FM.
Merci pour la patience de l'attente. Magloa Teko Kenvi, bonjour.
Bonjour à toi Sas Gaou, bonjour aux confrères, bonjour Canal FM.
Également Jean Oulo Polorini de Canal D, bonjour.
Sas, bonjour, bonjour aux confrères studio, bonjour à l'invité, bonjour Canal FM.
Merci, comme vous êtes des amis, nous en comptons beaucoup. La pensée du jour porte sur l'amitié qui dit... L'amitié, c'est comme un arbre. Ce qui compte, ce n'est pas s'il est grand, mais combien ses racines sont profondes. Encore une fois, l'amitié, c'est comme un arbre. Ce qui compte, ce n'est pas s'il est grand, mais combien ses racines sont profondes. Je suis rassuré de savoir que mon amitié, doublée de confraternité avec vous, a des racines profondes. Comme il en est de même avec un frère, un ami, un confrère, même s'il porte aujourd'hui une autre casquette, Alex Mikodomedo, bonjour.
Bonjour Sas.
Confrère bonjour. Journaliste, on t'a vu à l'œuvre, mais depuis quelque temps, tu es versé dans la politique. Tu as été élu secrétaire général au dernier congrès du CAR, comité d'action pour le renouveau, n'est-ce pas?
Absolument. Chez nous, c'est le secrétariat national.
Secrétariat national.
Secrétariat national du comité d'action pour le renouveau.
Mm-hmm. Et j'ai appris que votre bureau a opéré, le bureau et le parti ont opéré votre rentrée politique il y a quelques temps.
Absolument. Mais permettez-moi avant tout propos d'étendre mes salutations aux confrères ici. Mm-hmm. Même si vous m'enlevez la casquette de choses, état de la profession. Vous ne pouvez pas quand même m'enlever cette cassette-là, donc vous m'excusez.
Oui.
Je voulais saluer Michel, Jean et puis Magloire. Ça fait longtemps, certains je ne les ai plus revus. C'est un plaisir de se retrouver ensemble et puis de papoter un peu, quoi. Mm-hmm. Et je voulais aussi étendre mes salutations aux auditeurs de Canal FM. Beaucoup peut-être en donnant le nom se souviendront. Il y a 20 ans de cela que bon... Modestement aussi, je suis passé ici.
Alex
et aujourd'hui, je reviens avec une autre casquette. Donc, c'est un plaisir de les retrouver. Aussi, je voudrais étendre ma salutation à Modeste, le DG. Et bon, c'est un plaisir aussi. Entre temps, j'espère qu'on va se retrouver.
Sûrement. Ouais. Il nous attend au bureau. On ira faire la troisième mi-temps avec lui. Vraiment. Alors, revenons rapidement sur. Votre rentrée politique,
oui.
Que vous avez choisi d'opérer en un endroit très symbolique pour vous,
absolument.
Couvé, oui. Qui est le village natal de votre président fondateur, Maître Agboibo Apollinaire Yaoui.
Oui. Vous convenez avec moi que Maître Agboibo, tout d'abord, c'est toute une vision, hein? c'est tout un programme pour ce pays. Et nous qui nous revendiquons de son héritage, il était d'un bon ton qu'à la sortie de notre congrès, il fallait retrouver ses pas. Donc, dans la préparation du congrès et autres, vous rappelez que Maître Agboibo est décédé le 30 mai de l'an 2000, et donc nous n'avons pas eu le temps, pendant que nous étions en train de préparer ce congrès-là, et surtout qu'on était... on était dans une logique de déposer les actes du congrès. Et certains comme nous, on n'avait pas la chance d'aller nous prosterner sur sa tombe et puis de dire nos prières, surtout qu'on était investi de cette lourde tâche. C'est vrai que certains de nos collègues y étaient, toujours en notre nom, mais pour la rentrée politique, au niveau du bureau et du comité directeur, les gens jugent, bon, non, mais pourquoi nous n'allons pas retourner sur les pas de notre maître? Et pour nous, pour certains, c'est comme on nous investissait sur sa tombe. Hein. C'était vraiment, pour nous qui avons un certain niveau, tout ce qui a été fait, c'est comme on vous imbibait, on vous disait, vous n'avez pas le droit à l'erreur et tout ça. Donc, vraiment, c'était notre rentrée politique et c'était émouvant. Voilà. Maintenant, il y a eu, à côté de cette rentrée-là, une déclaration politique qui nous tenait à cœur.
Justement, deux ou trois lignes maîtresses de votre rentrée, en fait, de la déclaration qui a sanctionné votre rentrée politique.
Voilà, pour la rentrée politique, cette déclaration-là, d'abord, c'est de réaffirmer notre attachement aux idéaux du parti et de réaffirmer notre attachement à la vision de Maître Agboibor. Vous avez cette vision-là qui est faite du couplage, hein, de la pression et du dialogue, surtout le dialogue. Vous ne pouvez pas vouloir construire un pays, accéder au levier de commande du pays en étant dans une logique de confrontation mutuelle. C'est vrai qu'à un moment donné, quand vous avez en face un pouvoir qui ne veut pas entendre, il faille passer par des moyens de pression. Et beaucoup de partis de l'opposition le font bien. Hein, il faut le reconnaître, beaucoup parmi les partis de l'opposition ont cette logique-là de mettre la pression. Mais l'aspect dialogue, ça manque toujours à beaucoup d'acteurs politiques togolais. C'est-à-dire, on veut rester toujours dans cette vindicte de confrontation mutuelle. Et je peux comprendre cela par le niveau, le degré, parce que le taux d'analphabétisme de nos populations. Mais nous, on ne va pas rentrer dans ça. Il faut, la mission d'un parti politique, il y a aussi la formation civique. Nous devons former nos militants comme quoi? Mais quand quelqu'un a le levier du pouvoir, il a tendance à en abuser. Et il vous faut avoir une approche, hein, pour l'amener à comprendre que la manière dont tu exerces ton pouvoir ne sied pas. À un moment donné, vous risquez de vous découvrir. C'est ce qui est en train d'arriver dans la sous-région, vous voyez. Donc, dès que vous le répétez d'une manière courtoise. Hein, vous connaissez Maître Agboibor, vous avez vu comment sa méthode. Quand on parle de méthode, les gens pensent que c'est comme ça. Non, c'est juste cette méthode-là. De savoir reconnaître la place de la personne quand la personne a les leviers du pouvoir entre ses mains, qu'il a envie d'en abuser, mais de savoir l'approcher avec une certaine courtoisie pour lui faire comprendre que cette manière de diriger ne t'aide pas toi-même. Demain, tu peux te retrouver dans la situation de faiblesse et que ça peut se retourner contre toi.
Merci, ouais. Alex Edo. Juste à un moment, ta langue avait fourché. Maître Agboibor nous a quitté le 30 mai 2020.
Quoi? Oui, non, je l'ai dit 30 mai 2020.
Ah, 2000. Tu avais dit 2000.
Ah, d'accord. 2020. Mais je n'avais pas. C'est-à-dire, ouais. il y a de réaffirmer la vision du parti. En même temps, il y a les propos, la situation délétère du parti. Du pays, hein, sur le plan politique, il faut des réformes. Ça, on le dit tous les jours, il faut des réformes. Hein. On ne peut pas aujourd'hui vouloir aller à des élections encore dans ce pays et avec un découpage électoral qui laisse à désirer. Hein. Quand dans certaines régions, avec 15 000 voix, vous pouvez être député. Pendant que dans d'autres régions, quelqu'un qui a 25 000, 30 000 voix autour de sa liste ne peut pas siéger. Hein? Il faut 100 000 voix par ailleurs pour siéger à l'Assemblée nationale, pendant qu'ailleurs, on a besoin juste de 15 000 ou de 12 000 voix. Ce n'est pas bien. Nous tous, nous sommes des Togolais. Donc, il faut aller vers un redécoupage qui permette quand même à chaque Togolais de faire compter sa voix. Et maintenant, des petits problèmes que on peut dire, si je dis petit problème, ce n'est pas que ça n'a pas d'importance. Vous voyez par exemple les problèmes sociaux, hein, les mines, le Raotwe, et les gens qui sont à côté de ces points d'extraction de la ressource minière du pays, mais qui n'en profitent pas. Leurs terrains sont, je dirais, spoliés. Hein. Vous arrivez à extraire les mines. Bon, c'est pour tout le pays. Mais quand vous avez fini, remettez la terre à ses propriétaires pour qu'ils puissent continuer.
Ils auront pression de se réinstaller, voilà. De reprendre leur activité.
De reprendre leur activité.
Dans la zone des phosphates, dans la préfecture de Yoton, un peu partout et aussi.
Et c'est ce cas où que vivent les populations de Tablibo, par exemple. Hein, avoir deux péages. sur un même tronçon à peine, qui fait à peine 50 km. Aujourd'hui, la vie devient plus chère pour ceux qui sont obligés de venir acheter.
Un ensemble de préoccupations sociales donc, également que vous avez.
Les populations, les militants tenus à ce que nous l'exprimions dans notre déclaration et nous l'avons fait.
Vous avez parlé tantôt de la méthode Agboibor, le dialogue et la pression. Voilà. Juste vous rappeler qu'il y a quand même des mécanismes. Il y a eu la CEMAP, c'est ça?
La CENAP.
La CENAP qui a évolué en CPC, le cadre permanent de concertation, de dialogue. Un bon acteur politique.
Vous savez les conditions dans lesquelles notre parti avait entre-temps claqué les portes de la CENAP.
Oui.
Vous connaissez mes fonctions dans ce temps.
Oui.
Je sais beaucoup de choses.
Oui. Je rappelle
le parti avait mis en place. C'est-à-dire quand vous dites vous venez à un dialogue, l'agenda est établi par votre adversaire. Il vous dit je ne vais pas varier, je ne cède pas là-dessus. Mais c'est dommage. Nous tous, nous représentons quand même un certain courant dans la population. Mais quand j'ai quelque chose à dire, la population a quelque chose à dire à travers moi. Je viens, quelque chose comme la CENAP, on se retrouve. Donnez-nous l'opportunité quand même de l'exprimer et de le prendre en compte, quitte à vous d'aller l'analyser. Mais si on ne le fait pas et qu'on dit non, c'est l'agenda établi, quand on vous envoie même la correspondance, tout de suite, vous avez le programme. Vous ne pouvez même pas varier là-dessus. Non, je crois qu'à un moment
merci
donné.
Merci Alex Edo, secrétaire national du Comité d'Action pour le Renouveau, qui est notre invité aujourd'hui. Mais malheureusement, la technique nous aura privés de 40 minutes pour cette émission que nous allons devoir quand même continuer en survolant un peu les sujets. Mais nous tombons sur un sujet que nous avions abordé. C'était Fousseni Saïbou à l'animation le mardi dernier. Il s'était agi et il s'agit toujours de cette équipe-là de l'ONG Handicap International qui était en mission dans le Togo profond et que les membres de cette équipe ont dû vivre des mésaventures. Jean-Houlo Polorini, bonjour.
Oui, bonjour. Ça.
Alors, ton journal Canal B revient là-dessus aujourd'hui et tu écris de l'arrestation à la détention à la prison civile de Dapaon. Le récit d'Edouard Samboué, l'article est assez révélateur. Alors, tu écris par exemple que notre ami Edouard Samboué a été arrêté, déféré en prison, gardé en prison pendant 15 jours, puis il a été libéré sans aucune explication. Ensuite, on lui a communiqué qu'il était placé sous contrôle judiciaire et il est sommé de se présenter les premiers lundis de chaque mois devant le juge d'instruction de la ville de Kara.
De Dapaon.
Alors, comment en est-il arrivé à ce point?
Oui, ça, c'est une histoire vraiment qui nous a fait réfléchir et sur laquelle nous nous sommes penchés. Je vais rapidement résumer parce que le temps est contre nous. Il faut dire que Edouard Samboué est à l'origine journaliste et directeur de publication du site d'information labali.tg installé dans la région des Savanes. Et entre-temps, Handicap International a lancé un appel à candidature pour recruter un chargé d'accès sécurité. Il se fait que le confrère a postulé parce que les conditions voulaient quelqu'un qui maîtrise la zone du Nord, qui a un background en journalisme ou en droit ou en politique ou en sciences humaines. Et vu que le monsieur a des notions en journalisme et a une carte de presse régulière, il a postulé et il a été retenu. Ce qui fait qu'il a commencé le travail le 20 juillet. C'est pour un contrat de 6 mois. Maintenant, en début août, Handicap International avait un projet, le projet Sahara, à exécuter sur l'axe à Mandouri, sur l'axe d'Apar Mandouri. Donc, avec son équipe, ils étaient 5. Ils ont été le premier jour. À Mandouri, on leur fait comprendre que l'activité ne peut pas avoir lieu parce que, voilà, l'autorisation n'a pas été donnée par le ministère de l'administration territoriale. Par courtoisie, ils se font enregistrer au niveau de la gendarmerie et ils sont en train de retourner à Dapaon. 15 kilomètres, 10 kilomètres plus tard à Bagré, on les rappelle. On leur dit de revenir. Maintenant, une fois qu'ils reviennent,
de revenir à Mandouri,
une fois qu'ils reviennent, maintenant, on fait garder, on informe le chef de mission que M. Samboué ne peut pas retourner avec eux. Bon, ceux qui, ils ne comprennent pas, on le fait garder, on lui demande, mais il est journaliste. Il dit oui, qu'il a eu la qualité de journaliste, mais ici, il est en tant qu'humanitaire. Et le contrat le stipule en bonne et due forme. Il y a des clauses qui disent que tant que vous travaillez avec Handicap International, il y a certaines informations que vous avez un droit de réserve vis-à-vis des médias et beaucoup de choses. Tout a été clair. Donc le monsieur est sur le terrain en tant que humanitaire et non en tant que journaliste.
Il avait bien sûr la copie de son contrat
tout,
de travail.
Tout, oui, avec il tout. Également l'ordre de mission, l'ordre de mission. Et on le fait comprendre que non, il est venu continuer ses activités de journaliste ici. Ben, le gars, il était étonné. On le garde en prison le lendemain, on le présente devant le procureur. On lui dit Adapan. On dit qu'il est accusé de violation du secret militaire. Mais chose qu'il ne comprend pas parce que il était sur le cadre humanitaire. Quelques jours plus tard, c'est Handicap International qui lui dit oui, nous avons appris que vous êtes placé sous mandat de dépôt, dont votre contrat est résilié. D'office, le monsieur se trouve abandonné. Il est venu sur le terrain.
Abandonné
par son employeur.
De qui il était en
qui mission. Était en mission. Handicap dit que non, il est poursuivi pour des faits antérieurs à sa mission avec eux et il ne peut plus continuer avec lui. On le laisse tomber, il est sans avocat et il est détenu là-bas pendant 15 jours. Après, on le libère et sans explication parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Mais il dit qu'il est libéré, on lui dit que chaque premier lundi, il doit se présenter. Mais alors, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui est reproché au monsieur si tant est qu'il est allé en tant qu'humanitaire et que même l'appel à candidature demandait quelqu'un qui avait un background en journalisme. Est-ce que c'est à sa fonction de journaliste qu'on s'attaque ou c'est à sa personne? Autant de questions qu'on se pose. Et Handicap International, vous envoyez quelqu'un en mission et vous le lâchez sans avocat. Mais on se pose la question de savoir, est-ce que cette organisation fait vraiment de l'humanitaire ou qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que les données changent? Et aujourd'hui, Edouard Sambuesson, mais je ne vous dis pas les séquelles qu'il a. Actuellement, il est sérieusement malade. Il a des maux de cœur, des rhumatismes, des infections urinaires et sexuelles. Parce qu'en prison, vous savez comment les conditions sont. Et aujourd'hui, qui va le traiter? Il a son boulot à Handicap personnel a été détruit et il ne sait plus à quel sens se vouer. Et actuellement, là, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on lui reproche? Au moins qu'on le lui dise et qu'on lui montre les preuves de ce qu'il a fait comme dégâts. D'autant plus qu'on a effectué des perquisitions chez lui et qu'on n'a rien trouvé. Qu'est-ce qu'on reproche à notre confrère qui a été pris dans le cadre humanitaire? C'est des questions
autant
que nous posons
questions
et nous voulons vraiment qu'on soit
éclairés. Qui devrait interpeller plus d'un. Sans transition, nous en venons à une assemblée générale compte tenu hier. Les membres du REFAM, entendez par là le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, section du Togo, elles ont tenu leur assemblée générale élective. Et comme ça se fait bien qu'elles ont une sœur à la tête du gouvernement, c'est la première ministre qui a présidé la cérémonie. Et Ouara le vainqueur nous en parle avec le nouveau bureau élu et présidé par madame l'ancienne ministre et ancienne députée Amedjogbe Olivia. Michel?
Oui, effectivement. Vous savez que c'est une organisation féminine qui travaille sur le terrain, en tout cas la branche togolaise, hein, de cette organisation, qui travaille sur le terrain depuis de longues années. Et hier, ces femmes ont tenu une assemblée générale élective à l'issue de laquelle, comme tu l'as dit, c'est Mme Amedjogbe Olivia qui a été portée donc à la tête du Réforme Togo. Et elle a, et ce qui est intéressant, elle a promis œuvrer avec ses soeurs, oui, pour le rayonnement de cette association. Comme tu l'as dit, c'est un réseau des femmes africaines ministres et parlementaires qui, depuis de longues années, œuvre sur le terrain pour faire en sorte que les femmes soient beaucoup plus, en tout cas, consultées ou bien propulsées au poste de décision. Oui. Parce que l'intégration de la femme, on sait que c'est quelque chose de très important si nous voulons vraiment construire notre pays de très belle manière. Donc la femme doit être au centre de tout et ces femmes-là ont compris qu'il fallait qu'elles s'organisent de cette manière pour peser lourd à des niveaux donnés pour faire en sorte que c'est surtout les jeunes femmes puissent intégrer. Donc,
c'est justement l'adresse que leur a faite leur consoeur, Madame Toumenga Doboué, Premier ministre, qui leur disait hier, hein, nous devons être là. Ceux qui ont suivi le reportage à la TVT, c'est pas trois fois que la PM a interpellé ses consoeurs. Nous devons être là et pas seulement être là pour la figuration, mais valoir effectivement les postes auxquels ces femmes seront promues ou nommées. Juste rappeler que à côté de Madame Medjogbe, Olivia, elle aura comme vice-présidente Madame Papabia Arzouma, comme première vice-présidente, deuxième vice-présidente Madame Iou Desiade, secrétaire générale Madame Balouki Lexim, secrétaire générale adjointe Madame Adja Ameyo, et puis trésorière générale Madame Bakali Kolani Yobate, épouse, c'est ça, oui,
oui.
Madame Bakali Kolani Yobate, immaculée pour les plus proches, et trésorière adjointe Madame Ouro Bangna Nasara. Bonne chance à ce bureau, nous verrons leur travail à la fin de leur mandat. Très rapidement, pour venir à Flambeau avec Magloire, rebonjour.
Rebonjour, Sass.
Alors, rapidement, les députés ont fait leur entrée parlementaire avec l'ouverture de la deuxième session normale, ordinaire de l'année. Mais il y a une autre rentrée qui se prépare, ce sera très bientôt. Ce sera la rentrée diplomatique à laquelle le gouvernement togolais nous habitue de plus en plus.
Bien évidemment, l'annonce a été faite donc par le chef de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Doucé, qui annonce donc la rentrée, on va dire, diplomatique, qui est donc une rencontre annuelle au cours de laquelle l'État togolais évalue sa politique extérieure. Et donc, le lundi prochain, c'est la date retenue donc pour cette rentrée diplomatique. Et à la conférence inaugurale, il va y avoir l'ancien premier ministre Joseph Kouko-Figo qui va animer donc, on va dire, une thématique axée sur les transitions en Afrique. Et vous savez que l'actualité également tourne autour de cette transition-là. Qu'est-ce que les voix les plus diplomatiques de notre pays, le Togo, pensent, n'est-ce pas, de cette transition? Je crois que la rencontre est importante et il va falloir quand même que tout le monde puisse s'y rendre pour avoir une idée beaucoup plus variée de cette thématique. Et donc, encore une fois, ça va être le lundi prochain qui va être la grande rentrée diplomatique au niveau du Togo.
Merci. Autre sujet que vous traitez comme d'autres confrères également, c'est ce qu'on peut appeler l'alternance, hein, qui est intervenue à la tête de nos universités de Lomé et de Kara. Revue de presse rapidement avec le changement qui écrit Université de Lomé, le professeur Adama Koda, hein, qui prend la présidence en succession de Dodi Komla Kokoroko. Autre journal, c'est le Dialogue qui écrit lui aussi à la page 6 que succession à la tête de l'Université de Lomé, fier du travail abattu, professeur Kokoroko passe la main à Adama Koda. Canal D en parle aussi à la page 2. Plus d'hommage à l'endroit du ministre Kokoroko pour son leadership à l'Université de Lomé, avec entre autres le discours de son collègue du gouvernement, ministre de l'enseignement supérieur, Iwateba, hein, à son endroit. Autre journal, et justement c'est vous, Magloire Flambeau, vous écrivez à la page 4, hein, Kokoroko quitte l'université de Lomé, enfin, la présidence de l'université de Lomé avec les honneurs.
Bien entendu, avec les honneurs, et le constat, il est unanime et tout le monde le sait aujourd'hui. Et il suffit juste de scruter tous les discours prononcés lors de la cérémonie de passation de charge entre l'entrant et le sortant, et vous allez vous rendre compte de l'immense chantier qu'a réussi à dérouler le professeur Dodi Kokoroko à la tête de l'université de Lomé. Il y a eu assez de réformes. Il n'y a pas que des réformes au niveau académique, mais également le monsieur, il s'est débrouillé comme il le peut, a ouvert beaucoup de chantiers, des infrastructures, les routes. Et ce qui est un peu intéressant, c'est que l'actuel ministre en charge de l'enseignement supérieur, le professeur Iou Ateba l'a bien dit, pour construire une route, par exemple, un kilomètre de route, ça fait quoi? Ça fait un milliard.
Autour d'un milliard de francs CFA.
Mais à l'université de Lomé, aujourd'hui, on a autour de 4 à 5 kilomètres de route. Ça voudra dire que le monsieur, il s'est débrouillé. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que on nous révèle que le budget dont a bénéficié M. Dodi Kokoroko depuis 2016 à ce jour n'a pas varié. C'est le même budget que ses prédécesseurs ont eu. Mais quelle alchimie, quelle a été son ingéniosité en rassemblant tous ces fonds pour dérouler tous ces chantiers. Je crois que c'est de bonne guerre et ça prouve que le nouveau qui vient doit forcément marcher dans ses pas.
Et ce n'est pas seulement Kokoroko qui quitte la présidence de l'université de Lomé, son collègue également, comme la Sanda, lui aussi va quitter Kara. L'université de Kara, selon le programme, c'est aujourd'hui même qu'il va passer, que Komla Sanda va passer la main à son successeur, Kokou Tcharié. Un peu comme par hasard, à l'université de Lomé, c'est un juriste, Adama Koda, qui succède à un autre juriste, mais à Kara, c'est un scientifique, Kokou Tcharié, mathématicien de son état, qui va succéder à un autre scientifique, Komla Sanda. Alors, est-ce le hasard des choix par le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État ou bien il y a quelque chose? Nous en dirons juste un impératif commercial, puis nous revenons. 93.5. Après la pause des universités, nous venons plus bas avec les primaires, les écoles primaires et secondaires, avec ce que nous rappellent plein de journaux aujourd'hui, dont Flambeau, la rentrée scolaire 2023-2024, la reprise des classes pour les élèves, ce sera le 25 septembre prochain, mais la semaine d'avant, le corps enseignant administratif vont se retrouver pour la mise en forme de l'année. Alex Edo, tu es sûrement parent d'élève. Alors, comme parent d'élève et comme secrétaire national au CAR, cette rentrée scolaire imminente ne vous laisse pas indifférent, n'est-ce pas?
Absolument, ça ne laisse indifférent aucun Togolais, que vous soyez responsable politique ou journaliste ou tout autre. Ça ne laisse personne indifférent, surtout la situation aujourd'hui, le niveau de vie du Togolais. À l'approche de la rentrée, nous voyons comment beaucoup se bousculent, beaucoup se plaignent. J'ai vu même une dame lancer des alertes sur les réseaux sociaux, comme quoi il faut lui venir en aide pour pouvoir arriver à réunir la fourniture à son enfant. Donc ça, c'est juste un phénomène. Et il faut aujourd'hui qu'on aille au-delà. C'est vrai que depuis quelques moments, puisque vous en parliez tout à l'heure avec le professeur Kokoroko, il y a eu quand même des réformes au niveau de ce ministère-là. On peut saluer certains, c'est vrai que certains, on peut émettre des réserves là-dessus. Par rapport au management qu'il est en train d'inculquer, il y a des réformes qu'il faut applaudir. Mais en même temps, il y a des réformes où tu te poses la question, surtout en matière de gestion des hommes. Quand vous avez des instituteurs de haut niveau, vous avez des cadres qui se sont donnés pour une profession. Il peut arriver, nul n'est parfait dans ce monde, il peut arriver que pour un petit souci, il y a eu des désagréments dans la manière de conduire les choses. Et donc, si vous voulez aller vers la sanction, ce ne sont pas des sanctions, il faut exposer la personne, soi-disant que c'est pour des buts pédagogiques qui va servir pour les autres. Parce que là, moi, c'est au niveau de ce management-là que moi, j'ai un peu critiqué. Dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de réformes à ce niveau-là qui vont dans le bon sens. Maintenant, c'est qu'entre-temps, ce qu'on a eu à comprendre, c'est que le chef de l'État a fait une promesse aux parents d'élèves de les accompagner avec une certaine somme pour les fournitures. L'année passée, on n'a pas vu la couleur de cet argent-là. Comment ça s'est fait? Je crois que c'était par rapport aux livres, non? Si vous voulez me dire, c'est par rapport aux
fournitures scolaires.
Voilà, on n'a pas vu la couleur. Cette année non plus. Jusqu'alors, on n'a pas d'informations par rapport à ce fonds-là qu'on avait annoncé. Mais vous voyez des associations qui se réclament d'un bord politique, je ne vais pas le cacher, mais qui disent non, que c'est le don du chef de l'État.
et ils donnent des fournitures dans des zones ou bien dans les fiefs du parti au pouvoir. On va là-bas, on donne les. On dit non, c'est le fief de l'État qui nous a envoyé distribuer. Bon, on se pose la question. Est-ce que c'est ce fonds-là que le chef de l'État lui-même a annoncé?
Le fonds public,
le fonds public, voilà, qu'il avait annoncé. Est-ce que c'est ce fonds-là qui sert aujourd'hui à ces associations qui se réclament du parti, du parti au pouvoir? Est-ce que c'est ce fonds-là qui les sert à aller faire ça?
Ou bien ça peut être effectivement de la contribution privée, volontaire, soit du chef de l'État ou bien de ses émissaires.
Oui, mais dommage que vous avez annoncé un fonds, hein, publiquement pour tous les parents d'élèves, qu'on arrive à opérationnaliser le fonds pour que les autres puissent en profiter. Mais chez moi, dans le Yoto ou bien à côté, dans certaines régions de la savane, les gens attendent. Ce fonds-là, comment ça va se faire? Comment les fournitures? Est-ce qu'on va nous les donner? On va donner ça aux enfants dans les salles de classe et autres. Mais en même temps, si on voit d'autres associations affiliées au parti au pouvoir, mais qui distribuent des fournitures et autres, mais on se pose la question. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Et si le chef de l'État même a découvert qu'il faut apporter de l'aide, hein, aux parents d'élèves, et que ça soit opérationnalisé. Voilà.
Merci. Un peu dans ce sens-là. On nous annonce en fin de semaine l'épisode numéro 2 de la reine des sciences et technologies de l'ONG ASAL. Cette ONG dont la promotrice est Madame Abira Bonfo. Et pour la cérémonie du samedi prochain, c'est 15 candidates qui vont postuler pour la couronne. Et Michel, on verra bien l'heureuse élue sur la tête de laquelle Abira Bonfo va poser la couronne donc de la reine des sciences samedi prochain.
Oui, ça vaut la peine. Je pense que si il y a une miss à soutenir dans ce pays, je pense que c'est cette miss-là qu'il faut soutenir, que de nous rabattre les oreilles, miss collégienne, miss lycée, et on détruit plutôt les filles à ce niveau-là, qui vraiment perdent la tête et finalement ne poursuivent pas loin leurs études. Et alors que ici, on est en train de chercher l'excellence. C'est pourquoi hier, Madame Bonfo était claire, c'est de soutenir et d'encourager la gente féminine à vraiment aller de l'avant. Et pour ce faire, il faut organiser des concours pareils pour dire aux femmes que vous n'avez pas seulement vos cuisses, vous avez vos têtes avec lesquelles vous pouvez devenir des grandes dames demain. S'il y a une miss à soutenir au Togo, je pense que c'est cette miss-là qu'il faut soutenir, que de voir les gens aller écarquer leurs yeux à des occasions où moi je ne trouve rien là-bas. Voilà. Donc c'est une initiative vraiment salvatrice et elle doit être accompagnée à tous les niveaux.
Merci. Donc c'est l'ONG ASAL, dont la promotrice est Madame Abira Bonfo, députée à l'Assemblée nationale, qui organise cet acte 2 de la reine des sciences et technologies. On verra parmi les 15 candidates l'heureuse qui sera élue. Alex Edo?
Je crois que c'est une bonne innovation. Ce n'est pas parce que Madame Abira Bonfo est de l'autre bord, c'est-à-dire mon adversaire politique, qu'il ne faut pas saluer certaines innovations. C'est une très bonne innovation que d'instituer cette reine de beauté-là, mais qui incarne la science et la technologie. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'Afrique a besoin beaucoup plus des gens qui sont dans les sciences et la technologie pour faire développer ce continent. Mais en même temps, nous avons une absence totale de modèle pour nos jeunes sœurs aujourd'hui. Et donc, si une femme de cette carrure-là, qui a eu son parcours aussi, même s'il est dans une chapelle politique qui ne me convient pas, même si cette femme-là porte ce projet, je crois qu'il faut quand même saluer cela et en même temps dire aux autres qui sont ils peuvent être dans d'autres champs politiques ou bien même dans les partis au pouvoir, de prendre exemple sur cette dame-là, que si vous enrichissez, quand même pensez à vos jeunes sœurs, amenez-les à avoir une certaine idéologie.
Et rapidement, voilà. Sans transition, nous nous appelons encore une fois à la vigilance et à la prudence. Nous avons sans doute suivi ce communiqué du ministère de la Sécurité, de la Protection civile, qui nous alertait sur le lâchage imminent des eaux du barrage de Nangbeto. Alors, la cause, c'est comme l'écrit Écho du Pays,
La deuxième saison de pluie au Togo, au sud comme au nord, est aussi humide que la première. Et on nous annonce que depuis un mois, c'est de fortes pluies qui tombent sur la partie nord du Togo, région des savanes, région de la Kara, et jusqu'ici au sud, nous en savons quelque chose. Et la conséquence, donc, c'est ce communiqué du ministère de la Sécurité qui informe qu'on pourra lâcher de façon précoce les eaux du barrage de Nangweto. La conséquence inévitable, c'est les inondations à une certaine grande échelle dans les localités riveraines du Mono, situées en aval du fleuve Mono. Alors, quand on prend la carte du Togo, on voit le barrage de Nangweto jusqu'à la mer, toutes les localités sont potentiellement exposées à des inondations. Il faut faire attention, ceux qui habitent là-bas ou bien ceux qui voudraient y voyager. L'autre vigilance, c'est sur nos routes. Et en intervalle de quelques jours, nous avons enregistré deux accidents mortels, encore une fois, sur la nationale numéro 1. Il y a quelques jours, c'était un bus de la compagnie Nagode qui a occasionné la mort d'une jeune fille. Et puis, hier mercredi, c'est un autre bus de Etrap. Selon le communiqué du ministère de la Sécurité, le bus de la compagnie Etrap a tenté un dépassement hasardeux. Et au même moment, il venait un véhicule privé dans lequel se trouvaient 6 personnes. Et les six passagers du véhicule privé sont morts. Vous imaginez un peu, si c'est des collègues du bureau, si c'est une famille, vous imaginez un peu. Et comme l'écrit le tonnerre, ce tragique accident du bus de Trappe relance le débat sur la sécurité routière. Magloire, nous ne le dirons jamais assez, mais quand on prend la route, il faut redoubler de vigilance et de prudence.
Bien évidemment, je crois quand même que le débat, il revient au quotidien. Et d'ailleurs, le ministère en charge de la sécurité et de la protection civile essaie de nous faire le bilan sécuritaire deux fois par an. Et le bilan qu'on nous ressort, il est toujours inquiétant. C'est vrai que le dernier bilan qu'on nous a fait semble stagner un peu, mais le danger, il est là. C'est-à-dire que on sent toujours qu'il y a cette menace qui plane sur les populations. Et les causes sont diverses. On parle des causes humaines et des causes techniques, bien entendu. Maintenant, pour ce qui est des causes techniques, il y a plusieurs entités qui rentrent en jeu. Et l'État et, je crois, les services techniques au niveau de TRF, c'est ça, qui pour faire les contrôles techniques des engins. On a situé, je crois qu'on avait fait ce débat ici, entre-temps, on a situé les responsabilités. Maintenant, il revient à chacun de jouer pleinement sa partition. Maintenant, pour ce qui est des causes humaines, nous l'avons dit, il faut toujours essayer garder la vigilance. Il faut être vigilant lorsqu'on prend son volant. Pour prendre la route, il faut être vigilant. Entre-temps, on nous avait parlé de Alcotest. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Qui sait véritablement que ces individus, peut-être indélicats, qui n'ont pas conscience de la vie des humains qu'ils ont entre les mains en prenant leur volant, peut-être tout saoulé, les dégâts que ça peut...
Bon, on ne va pas faire procès d'intention.
Je ne fais pas
mais
procès
d'intention. Mais c'est des hypothèses. Nous partons du constat.
Je ne refuse hier, pas.
Mais le bus Etrap a tenté un dépassement hasardeux.
Exactement.
D'où ce drame-là.
Vous savez ça, la réalité c'est quoi? Chaque fois on est là, on fait le constat, on se plaint. Mais demain, on revient sur la même chose. Autant situer les responsabilités pleinement pour qu'on évite d'être ici pour faire le bilan macabre. Mm-hmm. C'est pour ça que j'essaie de voir à quel niveau ça peut se situer. Maintenant, pour ce qui est de l'État, de façon globale, n'oublions pas que la réalité qui est là, c'est que la nationale numéro 1, là, elle est trop étroite. Aujourd'hui, ça, c'est un constat. Et je me réjouis qu'il y a quelques années, depuis 2010, je crois, il y a un projet de boulevard qui doit rallier Lomé à Dapaon, un boulevard,
une autoroute,
voilà.
Mais là,
c'était une promesse, mais de 2010 jusqu'à 2023, ça fait 13 ans,
oui.
On ne nous dit plus rien, alors que ça a été une promesse, et je crois que le faisant même, ça évitera ces bilans macabres que
Merci,
nous faisons
c'est
régulièrement.
C'est vrai que donc, nos routes voilà. sont des tombeaux
à ciel ouvert, mais la nation numéro 1 a ce triste record, malheureusement, Michel.
Non, comme le dit Magloire, à chaque bilan que le ministère nous dresse, on dit « Ah, les choses ne vont pas très bien ». Et juste après, ça recommence. Le ministère a donné les chiffres il n'y a pas très longtemps. Et voyez ce que nous sommes en train d'enregistrer. C'est pourquoi moi je dis, quand on déverse des milliers de policiers actuellement dans les carrefours, au niveau des feux rouges, pour traquer ceux qui ne portent pas les casques, tout ça, c'est bien. Moi je dis que les accidents ne se font pas au feu tricolore. Mais c'est bien qu'on veut nous dresser, on veut nous amener à avoir
le réflexe de sortir avec son casque.
Mais on défait trop de police. Le problème, c'est interurbain, c'est-à-dire que interagglomération. Quand vous quittez Thiévier pour arriver à Lomé, quand vous êtes Thiévier pour Nantier pour Atapame, c'est là-bas que vous avez parlé de dépassement hasardeux. Ils le font tout le temps. Il n'y a personne pour les faire plier. Mm-hmm. Les agents postés un peu partout sur la nationale numéro 1, lorsqu'on observe un véhicule dans cette situation, on alerte devant, on le bloque. Bon, vous allez me dire, il a fait dépassement hasardeux, les gens sont morts. Quelle sanction va suivre après? Mm-hmm. On ne vous dira rien, c'est fini. On range ça et puis la vie continue. Quoi.
Mais si vie perdue là, oui, dans ce véhicule.
Mais quelle sanction on aura? Dites-moi. Et donc, moi, c'est entre les agglomérations. C'est là où il y a le problème. Et quand vous voyez dessert, c'est pour permis de conduire, carte grise, et ainsi de suite.
Visite technique,
oui. Avec ce cuisson.
Taxe.
Il faut des agents, à défaut d'avoir des flashs,
des
radars pour flasher. Il faut des agents qu'on doit poster. Et lorsque on voit un véhicule dans cette situation, on arrête devant le bloc. Voilà. On confisque le véhicule pour un temps. Pour punir les gens là, puisque notre responsabilité y est, la conscience des conducteurs. Vous voyez, le dépassement hasardeux. Ils en font tous les jours. Je ne sais pas, moi j'en vois tous les temps. Lorsque vous voyez ce que les taximans sur la route de Palmé, par exemple, les dépassements qu'ils font.
C'est ça.
Tous les jours ils le font, mais il n'y a personne pour les discipliner.
Merci. Michel parlait tantôt de cette opération qui a démarré depuis quelques temps dans la ville de Lomé, notamment au Carrefour. Quand on voit des policiers s'assurer que et les conducteurs et les passagers portent effectivement le casque. Deux journaux en parlent, la Nouvelle Tribune, qui nous transporte dans le fait de Logou avec cette opération de don de casque aux populations d'Atapame. L'initiative de deux natifs de la région, le ministre Ayewada Akoda, ministre de la Communication, associé à Deladem Akpaki, président du CNOT. Ce sont ces deux bonnes volontés qui ont offert les casques à leurs frères et sœurs de Logou avec l'espoir que les casques seront effectivement portés. Et toujours sur les casques éco du pays, nous parlons aussi du port de casque obligatoire pour le passager sur la moto. Les citoyens s'y conforment. Alex Edo, c'est vrai que l'autorité a dit, mais quand on circule dans la ville de Lomé, on constate qu'il y a de moins en moins de conducteurs ou de passagers qui circulent maintenant sans casque.
Absolument. Je crois que cette recommandation du port des casques par tous les usagers de la route, c'est une bonne chose. Malheureusement, ça a été adopté depuis 2013, je crois, mais on a traîné là-dessus avant de l'enclencher la dernière fois. Au moment où cela devait être mis en œuvre, c'est-à-dire la phase répressive, je crois qu'il n'y a pas eu assez de communication là autour. Et le moment où la phase de répression devait commencer, vous savez qu'il y a la rentrée.
Oui, mais Alex, tu permets, les policiers ont quand même usé de moins 2 à 3 semaines de pédagogie pour expliquer aux gens avant maintenant de
pédagogie,
passer...
Je ne refuse pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de phase de pédagogie, mais 2 à 3 semaines par rapport à une mesure comme ça, je crois que c'est peu. Et ensuite, c'est le moment de la mise en œuvre. Je ne suis pas contre. C'est vraiment une très bonne chose que nos concitoyens soient protégés. Et ça fait partie des attributions du ministre de la Sécurité de protéger ses concitoyens.
mais c'est le moment de la mise en œuvre. Je me réjouis que un ministre prenne sur lui d'aller distribuer les casques, mais c'est dans sa région. Mais les autres Togolais...
Tu es invité aussi à faire de même chez toi.
Je ne suis pas ministre.
Mais tu as les
moyens. Si j'avais aussi une caisse noire... non, si j'avais aussi une caisse noire que je peux me permettre des libéralités, ou bien je le ferais, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que aujourd'hui, c'est vrai, tous les Togolais ont pris conscience que c'est une bonne mesure. C'est une très bonne mesure. Mais il faut des moyens d'accompagnement. Ces moyens d'accompagnement, le Togolais ne demande pas trop. Vous pouvez subventionner les casques. On peut combien ça va coûter à l'État togolais? Si un ministre se prend sur lui, même si c'est 100 casques qu'il a allé distribuer dans sa région, ça veut dire que l'État peut faire plus. C'est-à-dire, d'une certaine macroéconomique, l'État peut faire plus. Donc, il fallait faire cela. Les mairies sont là. On dote les mairies d'un certain nombre de casques. Les consignants peuvent aller chercher ces casques à 2500. Ça ne vaut rien.
Merci. Souffrez vraiment qu'on s'arrête là. Cette émission vraiment spéciale. Nous étions tous au studio, mais la technique nous a lâchés pendant près de 40 minutes. Merci à vous pour votre patience. Vous êtes restés à nos côtés jusqu'à cet instant. Bon, on a pu quand même aborder un ou deux sujets. Les victimes collatérales, c'est les auditeurs qui n'ont pas pu entrer en ligne. Mais prions, puisque nous avons la foi, que demain, notre émetteur fonctionnera bien et que nous aurons un club de la presse normal. N'est-ce pas, Michel?
Ah oui.
N'est-ce pas?
Oui, oui.
C'est le Tchodjo qui parle. Merci, merci donc à vous, Michel, Magloire, Alex Edo, Jean Oulo, qui entre-temps nous a quittés. Merci pour cet esprit de solidarité et d'amitié. Et rappelons-nous pour terminer que l'amitié, la vraie, qui nous unit, hein, ce n'est pas tant que ce soit flambant ceci, mais c'est la profondeur des racines qui nous unit. Merci. Rendez-vous demain pour un club de la presse que j'espère normal. Et Dieu le fera, n'est-ce pas, Michel?